On vous en avait parlé sur Radio Pont. Nous y sommes allés. Nous avons pris quelques enregistrements. Les voici.
Radio Pont était au Festival littéraire et artistique de Teilhard pour la 11e session qui s'est déroulée du 23 au 25 mars 2018. Et maintenant, pour vous faire découvrir les auteurs, voici l'interview d'un des auteurs que j'ai pu rencontrer. On est avec Jean-Louis Lesbois. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous publiez votre premier roman, Les Belles Heures.
C'est mon premier roman. Mmh. Il m'a fallu 65 ans pour l'écrire.
Oh.
C'est en fait l'histoire de mon père, qui est un homme pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, et qui est né en 1900, mort en 1972. Et je voulais raconter son histoire qui sort un peu du commun.
C'est quoi l'histoire en fait ?
Alors l'histoire, mon père est né dans les Landes, à Mont-de-Marsan, en 1900. Et quand la guerre de 14-18 démarre, il a 14 ans, 13 ans et 10 mois. Et on lui dit, ton père part à la guerre, tu vas t'occuper de tes trois sœurs et de ta mère qui a une infirmité, qui a un rhumatisme assez sévère. Et le père lui dit, je m'en vais. Je veux, au retour, n'entendre que des félicitations sur la famille. Et donc, à 14 ans, il était déjà ébéniste. Il a fait sa formation d'ébéniste parce que tout petit, il était dans les ateliers à l'époque. Il allait à l'école, mais l'après-midi se passait dans les ateliers du forgeron, du menuisier, de l'ébéniste. Et donc, on lui dit, il faut faire vivre la famille. Et à l'époque, les hommes qui partaient à la guerre, il n'y avait pas d'indemnité. Les maris et les parents partaient à la guerre. Et donc, il va faire des petits travaux qu'il sait faire, c'est-à-dire essentiellement faire des clapiers pour des lapins, des poulaillers, réparer des portes et des fenêtres, des tables et des chaises, et il va réussir à nourrir la famille pendant les trois ans pendant lesquels son père est parti côté de Carcassonne. Il va tenir. Et quand son père revient, il a 17 ans, et à 17 ans, il se rend compte que son père n'est plus l'homme idéal qu'il croyait. Parce qu'à la guerre, il a appris à fumer et il a appris à boire. Et quand il revient à Mont-de-Marsan, son père, à ce moment-là, il doit avoir pas loin de 45 ans, les copains de guerre blessés, les gueules cassées, ceux qui ont été gazés, sont heureux de se retrouver le dimanche. Ils partagent tout le dimanche, à jouer à la belote, à jouer aux quilles et à boire. Et donc mon père ne supporte pas ça. Et à 17 ans, il dit, je vais partir à Paris. Et il fait Mont-de-Marsan-Paris à vélo, ça fait 750 km. Et à l'époque, le vélo crevait tous les 30 km, parce que les routes n'étaient pas très bonnes et les pneus pas très bons.
Ah oui.
Et il arrive à Paris le jour de ses 17 ans. Il dit, je suis à Paris, je vais travailler à Paris. Et il va fabriquer des hélices d'avion. Parce que les hélices étaient à ce moment-là en bois. Et c'était les meilleurs des ébénistes qui faisaient des hélices. Parce qu'il n'y avait qu'une hélice par avion. Et il fallait que l'hélice soit de belle qualité. Donc, il fait des hélices. Et il va rencontrer tous les héros de l'aviation de l'époque. C'est Blériot, c'est Santos Dumont. Et il va avoir une ouverture d'esprit qu'il n'avait pas à Mont-de-Marsan. Avec des gens qui parlent de New York, qui parlent de l'Australie, qui parlent de la Nouvelle-Zélande. Et ça lui donne envie de voyager. Donc, il va voyager et à 25 ans, il va se retrouver au Gabon parce qu'il a un ami qui était au Gabon. Et au Gabon, on lui dit, tu connais le bois. Tu es ébéniste, tu connais le bois. Eh bien, tu vas aller faire de la prospection du bois dans la grande forêt. Tu vas aller chercher les arbres sur pied et comptabiliser combien il y a d'arbres par hectare que l'on pourrait exploiter si on peut exploiter ces arbres. Ce sont des arbres que l'on va abattre, qu'on va faire descendre et qu'on va faire flotter sur la rivière pour les envoyer 150 km plus bas. Donc il s'occupe de ça. Mais il faut imaginer qu'il partait pour 6 mois dans la forêt avec 12 à 15 porteurs qui portaient la nourriture pour les porteurs, sa nourriture, son lit, les tables, les chaises, l'arrosoir pour prendre sa douche du soir, de quoi laver le linge. Enfin, il partait pour 6 mois. 3 jours de congé. Et il repartait 6 mois. Et il fait ça pendant 3 ans. Ensuite, il revient en France à une époque où on commandait les meubles à un ébéniste 10 ans à l'avance.
Ah ouais.
Faites-moi, s'il vous plaît, la chambre de mariée de ma fille qui a 10 ans. Faites-moi un bureau Louis XV pour mon fils quand il sera médecin. Il a 11 ans. Et donc, quand il revient en France, il a déjà du travail qui était assuré, donc il fait son boulot. Va arriver la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, il a 39 ans, et il y a un régiment de tirailleurs sénégalais à Mont-de-Marsan. Il est mobilisé dans ce régiment, et ce régiment va arriver au Gabon. Il n'y a pas de guerre au Gabon, la guerre est bien loin, les Allemands, il n'y en a pas un. Et donc, il ne se passe rien, sauf que c'est un des premiers territoires de la France libre de Gaulle. Et De Gaulle arrive au Gabon, que le Gabon devienne France libre, il y aura, je crois, 3 morts. Ce n'est pas une grande bataille, 3 morts. Et De Gaulle dit, ici, c'est un territoire de la France. Vous qui avez 40 ans, je n'ai pas besoin de vous pour faire la guerre. Par contre, nous avons besoin d'or, et si vous connaissez le pays, vous pouvez être chercheur d'or, je signe tout de suite. Et mon père devient chercheur d'or. Et donc il va sortir de l'or, qu'il va explorer, exploiter. Là on se retrouve en 1945, et en 1945 mon père découvre une jeune métisse à Lambaréné, dans l'hôpital Schweitzer. Et cette jeune métisse va être ma mère, elle a 24 ans de moins que mon père. Mon père qui est parti en 1939, de 1939 à 1945, ben, il n'a pas eu beaucoup de conquêtes féminines sur place. Les seules femmes qu'il y avait à l'époque, c'était soit des religieuses, c'est pas là qu'ils pouvaient aller chercher, soit des femmes d'officiers, de gouverneurs, de policiers, de douaniers. Mais enfin, c'était un terrain réservé. Donc, il va trouver celle qui va être ma mère, qui est une jeune métisse, qui a été à l'école, qui a sait lire, écrire, compter, broder, enfin tout ce qu'on enseignait chez les bons pères à l'époque. Et il va lui faire 1, 2, 3 enfants. Et après, bon, l'histoire continue. Il faut savoir qu'au Gabon, les enfants n'appartiennent pas au père, mais à la mère. C'est une des rares sociétés d'Afrique qui est matrilinéaire. Les enfants importants, ce n'est pas ceux que l'homme a fait, c'est ceux que la femme a. Et les enfants importants, pour un homme, ce n'est pas ses enfants, c'est les enfants de sa sœur. Parce qu'il est sûr que les enfants de sa sœur sont de sa famille. Lui, est-ce que c'était lui qui a été le père ou pas? Ça, il peut espérer, mais il n'en est pas sûr. À l'époque, il n'était pas sûr. Donc, ma mère, dans ces conditions, un jour, elle dit à mon père, j'ai accouché de 2 jumelles, une blanche et une noire. La blanche n'était pas en bonne santé, elle est morte, il reste la noire, qui est solide et en bonne santé. Et en fait, c'était un petit coup de canif dans le contrat, mais elle avait présenté ça comme une grossesse avec des jumeaux. Et mon père aura bien compris, élève tout ce monde, et on sera à la maison avec 6 enfants, qui ne sont pas tous de mon père, mais qu'il aura tous élevés à Mont-de-Marsan. Et à l'époque, c'était très mal vu, les relations avec des Africaines ou des Métisses. Et les Européennes bien-pensantes de l'époque disaient, ces enfants-là, il faudrait les noyer. On n'a pas été noyés. Et les 6 enfants de la famille, on n'a pas si mal réussi, puisque 3 ont été instituteurs, 1 a été professeur, et moi j'ai fini médecin. Et ma sœur, noire, Marcel, allait être ministre de l'éducation nationale au Gabon quand Bongo est mort. Donc c'est pour raconter cette histoire qui est l'histoire banale d'un homme qui vivait d'une époque assez extraordinaire et qui a vécu des choses assez extraordinaires. Et alors je l'ai écrit comme un roman. Je l'avais écrit d'abord comme une biographie année par année pour mes enfants. J'ai écrit ça pour mes petits-enfants parce que vous êtes de la génération moderne et Internet et SMS, mais quand mon père écrivait une lettre à sa sœur qui était à Mont-de-Marsan, il fallait à peu près 2 mois pour que la lettre arrive. Et sa sœur, c'était pareil. Donc il fallait 3 jours pour aller de Mont-de-Marsan à Bordeaux. Le bateau, c'était 26 jours de traversée, mais il fallait que la lettre soit postée le bon jour. Sinon, il y avait un bateau tous les 15 jours à peu près. Et quand la tante disait par exemple, ben on est le 26 mars, il fait froid, je suis enrhumé, je tousse, je crache, la lettre arrivait au mois de mai, moitié du mois de mai, il lui disait couvre-toi bien, ne prends pas froid, là, elle recevait la réponse au mois de juillet. Il faut voir qu'à l'époque, le courrier était comme ça, que les relations étaient très dures avec les Africains, mais parce que les gens avaient vécu une époque dure. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la guerre faisait 5000 morts par jour. La guerre de 14-18 a fait 5000 morts par jour. Alors aujourd'hui, avec les attentats, on se dit qu'il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de morts. On est une époque de grande sécurité, au contraire, par rapport à ça. 5000 morts tous les jours, 4 ans, c'est immense. Même, je ne veux pas dire que les attentats ne sont pas importants, mais c'est pour dire que les hommes avaient vécu à la dure et que le modèle qu'ils avaient vécu, ils le vivaient en Afrique à la dure aussi. C'était des chefs, ils donnaient des ordres, il fallait qu'on les exécute sans discussion. C'était plus le regard qu'on a aujourd'hui sur les hommes et la valeur de l'individu que l'on protège. Et l'enfant de 14 ans qui est chef de famille et qui a à nourrir 4 personnes, aujourd'hui un enfant de 14 ans, il est avec ses jeux, il reste adolescent, c'est un petit gamin, et je voulais raconter ça à mes petits-enfants. Voilà.
Et donc, pour les auditeurs qui veulent lire ce livre, ils peuvent l'avoir...
Alors, c'est un livre qui a été édité à Cibourg par une maison d'édition qui s'appelle La Cheminante. C'est une toute petite maison d'édition, donc en plein Pays Basque, à côté de Saint-Jean-de-Luz, et qui édite des livres qui ont trait à l'Afrique et le Moyen-Orient, avec des auteurs africains, beaucoup d'auteurs africains, d'auteurs du Moyen-Orient ou des îles, des Antilles, de la Réunion, des Caraïbes. Alors, ce livre, pour l'instant, n'a pas été lu. J'ai un ami qui voulait le lire pour l'avoir en livre audio. Ça se fera peut-être. On y a pensé, mais la réalisation n'est pas là. Donc c'est une lecture classique dans le livre.
Merci.